Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Épilogue. Bienvenue à notre deuxième et dernier épisode sur la crise étudiante de 2012. Je suis Benjamin Tremblay et je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis.
Salut Ben. Dans le premier épisode, on a entendu les trois leaders étudiants de la grève de 2012. Ils nous ont expliqué chacun leur tour, leur rôle et les enjeux de leur fédération ou de leur association respective pendant la plus grande crise sociale que le Québec ait traversée.
Aujourd'hui, on vous propose la première discussion qui réunit ensemble Gabriel Nadeau-Dubois, Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin depuis les 8 dernières années. On les a réunis dans la suite présidentielle de l'hôtel Château-Laurier, à deux pas du Parlement de Québec. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous recommande fortement de retourner en arrière et de l'écouter d'abord, avant de poursuivre avec celui-là.
Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver après 8 ans ensemble, là, les trois, autour du même micro?
Oui, ben ça fait drôle. Je suis très content d'être là. Puis, il y a eu beaucoup d'articles, toutes sortes de choses qui ont été écrites, mais tu sais, on a tous fait, je pense, un cheminement dans nos têtes, mais de partager ça, tout ça. Et là, aujourd'hui, avec le recul, enfin, de faire un petit débrief, non, c'est très, très salutaire. Puis ça fait, c'est drôle de voir le chemin parcouru aussi. Puis, en tout cas, je pense pas qu'on aurait pu prévoir que dans 8 ans, 8 ans plus tard, on en serait là comme individu, mais comme société aussi.
C'est le moins qu'on puisse dire. c'est un euphémisme, en fait. Jamais on aurait pu.
Mais non.
Mais avant d'écouter la prochaine entrevue, il faut savoir qu'en 2012, c'est loin d'être la première grève étudiante au Québec. En fait, il faut seulement penser à 2005 sous le gouvernement Charest, une grève qui se finit un peu en queue de poisson pour les étudiants. C'est pour ça que quand arrive 2012, le gouvernement néglige un peu le mouvement étudiant et s'attend à une reprise de 2005. Les étudiants finiront par plier et rentrer en classe. C'est vraiment une erreur de la part du gouvernement Charest parce que les étudiants ont tiré des leçons de 2005 et que leur mobilisation se fait beaucoup plus rapidement. Le mouvement est mieux organisé, il se coalise plus efficacement et soudainement, au plus fort de la grève en 2012, ce sont plus de 310 000 étudiants québécois qui sont en grève. Et c'est un peu dans ce contexte que se rencontrent pour la première fois le premier ministre Jean Charest et les représentants des étudiants. Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas présent puisque son organisation refuse toujours de condamner l'usage de la violence, une position inacceptable pour le gouvernement. La rencontre mène à rien. Les manifestations continuent et environ 2 mois plus tard, Jean Charest annonce qu'il déclenche les élections au Québec. Le 4 septembre, Pauline Marois et le Parti québécois sont portés au pouvoir d'un gouvernement minoritaire. Le 20 septembre, la hausse des frais de scolarité est annulée.
Quand on fait le résumé des événements comme ça, on peut juste se demander comment la crise étudiante aurait pu se régler sans le déclenchement des élections à l'été 2012. Mais aussi, est-ce qu'avec le recul, les trois leaders étudiants auraient fait les choses autrement s'ils avaient la chance de reprendre certaines décisions? Sans plus attendre, voici en discussion ensemble Gabriel Nadeau-Dubois, Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin.
Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur... Léo, Martine et Gabriel, là. Toutes sortes de caricatures dessinées, puis aussi caricatures rédigées, là, écrites. Tu sais, des gens qui pensent qu'on est comme les meilleurs amis du monde, genre un trio d'inséparables. Il y a du monde qui pense qu'on voulait s'arracher la tête, tu sais. Alors que dans les faits, je pense que notre relation a toujours été un... Ben, c'est sûr que Léo et Martine travaillaient beaucoup plus ensemble que moi, tu sais, mais... En tout cas, moi, personnellement, tu sais, Léo et Martine, ça n'a jamais été des amis. Mais on n'a jamais été des ennemis. Tu sais, pour moi, c'était comme des genres de collègues avec un statut particulier parce que je passais beaucoup de temps avec eux autres.
En même temps, on appartenait à des organisations qui avaient des rapports conflictuels. Mm-hmm. Fait que moi, je trouve ça agréable de les entendre aujourd'hui, près de 10 ans plus tard. Puis, tu sais, moi, ce que je constate, c'est le chemin qu'on a tous parcouru. Puis, c'est ça, je peux pas m'empêcher de regarder derrière mon épaule, de voir les divisions que nous avions à l'époque, puis d'avoir un peu un sourire en coin en me disant, mon Dieu, on se prenait la tête quand même avec des trucs qui aujourd'hui m'apparaissent, bon, puis là je vais avoir l'air d'un vieux politicien cynique, mais qui aujourd'hui m'apparaissent de l'ordre quand même de trucs pas si divisifs que ça, mais à l'époque...
Jusqu'à ce moment-là, chaque bataille,
ça nous apparaissait comme... Tout était fondamental, tout le temps.
Ouais. Exact. Chaque bataille était à l'arraché à chaque fois. Ouais. Non, mais c'est... Sérieusement, on a eu effectivement à l'époque des prises de bec. Léo et moi, on a eu des déjeuners assez houleux des fois. Même.
On s'est pognés aussi, oui.
c'est ça, moi, je n'ai pas été témoin de ça.
Parce que quand j'étais là, ils s'entendaient toujours bien.
On s'est attendu avant, mais...
Ils se parlaient avant de me faire rentrer.
Non, mais c'est justement parce que nos organisations étaient tellement proches que des fois, on n'avait pas la même vision non plus. On n'avait pas les mêmes pressions qui nous étaient mises de la part de nos membres, etc. Fait que ça ajoutait aussi une certaine pression. Puis de côté, il y avait comme la classe du côté de Gabriel qui ajoutait un chaos parfois qu'il fallait aussi gérer. Donc, l'organisation de chaos, on en a fait comme pratiquement une profession à l'interne. Mais c'est quand même drôle parce qu'effectivement, tu sais, jamais on a vraiment eu des conflits, les trois ensemble quand on était là. C'est super rare, mais on savait aussi ce qu'il fallait pas se dire à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même drôle de se voir et d'entendre justement les réflexions. Je trouve ça le fun de voir les réflexions quand même qui ont été faites depuis ce moment-là.
Est-ce que, Martine, tu considères que vous avez eu gain de cause?
Oui, totalement. En fait, c'est dur de dire qu'on n'a pas eu de gain de cause. Il n'y a pas eu la hausse de 1625 $.
Les frais sont à 1800 $ en ce moment, je pense.
C'est ça. Non, mais c'était 1625 quand même de hausse. Ça a été annulé. Moi, je me souviens, au lendemain des élections, en fait, le coup de fil. Puis tellement que... Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé dans ce mouvement-là, c'est que c'était tellement gros, ça a tellement pris de temps aussi. C'est qu'à un moment donné, les gens finissent par peine. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on est dans la rue? On n'est pas là pour renverser le gouvernement. On n'est pas là pour l'environnement. Quoi que, tu sais, on peut être là pour toutes ces causes-là, mais c'était pas la base. À la base, contre la hausse des frais de scolarité, oui, réglé, merci, on passe à autre chose. Et évidemment, on a ajouté la loi 78 parce que c'était vraiment un élément qui allait comme tuer n'importe quelle association étudiante. Là, je veux dire, les frais, des amendes associées à cette loi-là étaient telles que ça pouvait juste comme nous mettre à terre complètement là, au niveau de la FEUC, quand même, qui avait un budget quand même intéressant. Donc, je me disais, il y a quand même là, oui, gain de cause. Moi, j'ai aucun doute, mais je dois avouer, je me suis jamais autant battue avec des associations étudiantes pour qu'ils fassent un party pour dire qu'on avait gagné, parce que les gens étaient déjà rendus de « oui, mais là, ça nous prend la gratuité scolaire », puis je faisais comme « oui, mais on est, c'est pas ça, c'était pas ça le début, c'était pas ça la cause ». Mais justement, la longueur, la pluralité, en fait, du mouvement faisait que, tu sais, chacun y ajoutait ses objectifs.
Vous avez jamais eu l'occasion de vous réjouir tout le monde ensemble?
Ben, je pense que c'est souvent comme ça dans les grands mouvements. Mais je pense qu'aujourd'hui, les militants étudiants, mais même non étudiants, je pense, considèrent ça en grande majorité comme une victoire. Comme disait Martine, la hausse de 1125 ou 75% a été annulée. En termes d'argent, là, on parle d'à peu près 350 millions de dollars chaque année. J'ai refait le calcul récemment. Le nombre d'étudiants et le montant qu'ils auraient payé, c'est quand même significatif. Et moi, ce que j'ai toujours eu pour m'en dire, qu'on construit des mouvements sur des victoires. Tu sais, c'est comme ça qu'on permet d'avancer en disant, mais regardez les gens avant nous, ce qu'ils ont fait, ils ont gagné. Et je pense que c'est ça l'histoire qui se raconte en ce moment dans les milieux étudiants.
Puis là-dessus, tu sais, des mouvements sociaux ou même des révolutions qui se terminent avec un moment où on dit, bon voilà les amis, c'est terminé, nous avons gagné, et là on ouvre une bouteille de champagne, et là c'est la fin et la victoire. Ça, c'est dans les livres.
Oui, c'est par après qu'on le dit.
Dans la vraie vie, ça ne s'est jamais passé comme ça nulle part dans aucun mouvement social. Les mouvements sociaux, par définition, se terminent jamais vraiment. Ils finissent par s'étioler, tout ça. Puis c'est souvent dans les livres d'histoire qu'on dit « Ah, ça s'est terminé cette date-là avec une victoire ou cette date-là avec une défaite. » Donc, moi, je comprends dans l'enthousiasme beaucoup de gens de se dire « On pensait qu'on changeait le monde, on pensait qu'on transformait le Québec. » Finalement, on ne l'a pas fait. T'sais, la Révolution française a duré, selon bien des historiens, des décennies, là. Puis il n'y a pas de moment où on peut tirer un trait puis dire il y a une victoire ou une défaite.
Ça a commencé comment?
d'abord, dans le mouvement étudiant québécois, moi, j'étais arrivé président de la Fédération étudiante collégiale en 2010. Puis déjà, à ce moment-là, les frais de scolarité, ça a toujours été quelque chose d'un peu mythique, je pense, ou d'important. T'sais, on se rappelait dans les livres d'histoire, raconte-toi les grandes luttes étudiantes des années 60, la fameuse Révolution tranquille. Puis les frais de scolarité, c'était un élément important de cette histoire-là. Donc, moi, j'arrive dans ce contexte-là. Puis en 2010, on est dans une période d'augmentation des frais de scolarité sur 5 ans. Et le gouvernement annonce dans ces années-là qu'il veut poursuivre ça. Donc, dès le début des années 2010-2011, ça se jase dans les associations étudiantes que la prochaine grande bataille qui s'annonce, c'est celle des frais de scolarité. Et un autre moment où on peut mettre peut-être le début, c'est, je pense qu'on est autour, c'est ça, de 2010-2011, ici à Québec, et il y a une rencontre de tout le milieu de l'éducation. Le 6 décembre, exactement, bonne mémoire.
Dès mars 2011, il y a eu cette manifestation-là au bureau de Jean Charest. Là, puis là, le SPVM avait délogé les étudiants qui étaient là d'une façon assez expéditive. Puis ça a été un ton. Il y a eu une violence qui s'est manifestée dans le cadre de toute cette crise-là qui était quand même assez étonnant. Le déchaînement de violence, là, comme on a rarement vu du côté de l'État, vous l'expliquez comment? Martine, j'aimerais ça t'entendre.
C'est une bonne question, comment on se l'explique. C'est dur à expliquer parce que ça a été comme un moment. Il y en a eu d'autres manifestations, il y en a encore d'autres aujourd'hui. Puis à aucun moment on agit avec les manifestants de la façon dont on agit en 2012, entre autres. Parce que oui, 2011, c'est un cas, mais tu sais, en 2012, c'est vraiment là que ça a comme pris un peu plus d'ampleur. En fait, ça prenait tellement d'ampleur qu'on parlait même plus de hausse des frais de scolarité. On parlait juste de violence et d'intimidation. Moi, je me souviens, la majorité des entrevues, c'était là-dessus. Il fallait sur lesquels on se battait. Même si on allait en négociation avec le gouvernement, on parlait juste de ça. Puis c'est dur à expliquer. En fait, c'est peut-être parce que c'était des étudiants, parce que c'était des jeunes, on avait l'impression qu'ils étaient comme impulsifs, qu'on pouvait, que, tu sais, c'était pas des étudiants accomplis. Tu sais, les jeunes sont toujours un peu comme sous-estimés aussi dans leur désir de démocratie, de manifestation, de liberté d'expression. C'est comme si, bref, on s'était dit que c'était pas vraiment important. Moi, je me souviens d'être allée à la commission Ménard fin 2012, je pense, quand le gouvernement Marois a été élu. Puis ça, finalement, ça n'a rien donné, cette commission-là. T'sais, ils ont fait un rapport qui était complètement tabletté par les libéraux par la suite. Ça n'a plus rien donné. Et pourtant, il y avait plein d'éléments là-dedans super intéressants sur comment gérer des manifestations, etc. Peut-être parce que c'était les plus grosses manifs, en fait, qu'on avait vues jusque-là. C'était ça qui était difficile à gérer. Mais franchement, je me l'explique mal encore aujourd'hui, comment on a pu comme lancer par exemple des balles de plastique dans les foules ou même lancer j'étais pas là, mais le 4 mai il y avait quand même une manif à Victoriaville qui avait complètement dégénéré au point où même les ambulanciers voyaient plus parce qu'il y avait trop de fumée de gaz lacrymogène. Nous autres, on était en négociation, fait qu'on n'était pas là, mais quand même, tu sais, je me dis, il y a là matière à aller analyser. Malheureusement, le corps policier avait refusé en 2012 de se pencher là-dessus.
Un autre élément qui a rendu possible cette violence policière, c'est qu'il y avait parallèlement ce que certains ont appelé une brutalité aussi médiatique. C'est-à-dire que la violence concrète dans les rues était, il faut se rappeler, là, accompagnée à l'époque d'un discours anti-mouvement étudiant extrêmement assez violent. T'sais, je veux dire, j'avais fait la recension de ça dans le livre que j'ai publié un an après le mouvement, mais je veux dire, les termes qui étaient utilisés pour décrire ce mouvement-là, tu sais, de terroriste à serpent, en passant par crapule, par parasite, par... Tu sais, quand l'espace public est chargé de ce vocabulaire-là, tu sais, les policiers, là, ils se lèvent le matin, ils lisent le journal comme tout le monde. Hein. Donc, quand il y a un climat social qui pointe du doigt un groupe dans la société aussi, avec autant de violence, je sais pas, ça explique pas tout, mais ça rend acceptable socialement certaines choses que dans d'autres circonstances, les gens condamneraient, je pense.
Donc, il y a un volet acceptabilité qui s'installait par rapport à ça, mais est-ce que tu penses, Léo, que c'était même concerté? Est-ce qu'il y avait une commande à haut niveau pour justement affranchir un tel niveau de violence?
Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit, mais j'imagine que des directives, tu sais, veut pas quand même l'État a son rôle à jouer, puis les sous-ministres à la sécurité publique ou le ministre, à un moment donné, je peux pas croire qu'il n'y a pas eu des discussions ou une réflexion. Moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est il y avait une attitude aussi différente, par exemple, entre les corps policiers à Québec ou des fois à Montréal. Tu sais, on a vu que je me rappelle de manifestations ici à Québec où le ton était justement beaucoup plus dur. Là. C'est comme si le message qu'on envoyait, il n'y en aura pas de manifestation, il n'y en aura pas de dérapage. Donc ça, je pense que ça indique qu'il y a...
de la mairie.
Ben, c'était sans vouloir pointer du doigt, on se demande un peu, tu sais. Et j'ai l'impression, comme disait Gabriel, c'est l'addition, c'est ça, du message public, d'une volonté gouvernementale, parce que pour avoir vécu brièvement un petit peu de l'autre côté, même si je n'étais pas dans l'exécutif, quand le Parti québécois était au pouvoir, je me rappelle de discussions où des gens envoyaient le message, là, on ne veut pas qu'il y ait de bavure policière, on veut que ça se passe bien. Donc, je sais, en tout cas, qu'à l'inverse, il peut y avoir des messages qui sont donnés pour calmer le jeu. Puis là, le narratif, le message du gouvernement, c'était la loi et l'ordre versus l'anarchie et la rue. T'sais, c'était ça, le message que le gouvernement envoyait à l'époque. T'sais.
Mais je dirais, la journée où j'ai vraiment réalisé qu'on avait comme un peu perdu le contrôle, parce que quand il a commencé à avoir une manifestation de casseroles dans les rues où les gens nous octroyaient, dans le fond, le mandat d'aller négocier ou de trouver des solutions ou de continuer de faire des manifestations, alors que ces gens-là, ils ne sont pas dans nos assemblées générales. Moi, je me disais, c'est bien beau, là, je vais négocier demain avec le gouvernement, puis je retourne dans mon assemblée générale, ces gens-là, je ne serai jamais capable de les convaincre. Et je me souviens, nous autres, on avait comme nos bureaux au coin comme de Marianne et Saint-Laurent à Montréal, puis les manifs qui passaient là. Je me souviens de les regarder, de trouver ça absolument merveilleux, puis me dire, bien, je ne sais pas comment ça va finir si ça, on ne va pas en élection. En fait, il n'y a aucune autre solution.
Découvrez le nouveau café Érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On sait, on a vu à travers l'actualité que c'était pas toujours au beau fixe entre les différentes associations. On sait même que peut-être, on a lu, j'ai retracé quelques articles qui faisaient état, même que ça n'a pas toujours été au beau fixe entre vous tous ici. C'était comment la négociation entre vous? Ça avait l'air, est-ce que c'était simple de s'entendre entre coalitions? Gabriel, je t'inviterais à commencer.
Ben, je pense, tu sais, je veux dire, on passe pas à travers 6 mois d'un mouvement social aussi puissant, aussi fort, aussi fort en émotion sans qu'il y ait des quelques étincelles, mais tu sais, je veux dire, il n'y a jamais eu de conflit ouvert, de hargne, de, tu sais, entre Martine, Lou et moi, en tout cas, je parle de la perspective qui est la mienne, mais tu sais, je veux dire, on traverse pas quelque chose comme ça sans qu'il y ait des moments où on se parle puis qu'on se brasse un peu, mais je veux dire, jamais de conflit ouvert, jamais de détestation, jamais de haine personnelle. Entre les organisations étudiantes, par contre, entre les militants et les militantes, il y avait, oui, parfois des moments de conflit. Puis, je veux dire, moi, je me rappelle de voir Léo. Léo s'est déjà fait bardasser un peu. Je me suis déjà fait bardasser aussi, puis pas juste par du monde extérieur.
Quand tu dis bardasser, on parle-tu de physiquement, Léo? Ou juste,
quand même un peu. C'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé aussi. Ouais. C'est
dans des manifestations, des fois, il y a des manifestants plus radicaux, plus motivés, on va dire, enthousiastes, puis qui cherchent un peu à pousser ou à intimider, puis c'est un peu les défis là, dans ces moments-là. Puis peut-être, il faut se remettre dans le contexte où est-ce que c'est un climat tendu, puis on est tous, je peux parler pour les autres, mais en tout cas, pour moi, on est vraiment jeunes. C'est une première expérience un peu aussi d'engagement à ce niveau-là.
On est exténués en permanence.
Exactement, très, très fatigués. Puis la violence et la condamnation de la violence était justement un élément sensible. Puis le gouvernement le savait et donc jouait beaucoup sur cette chose-là. Parce que là, on fait un peu d'aller-retour dans le temps, mais lors du premier épisode de négociation qui se déroule autour d'avril, si je ne me trompe pas, ce qui avait été conclu, c'était d'avoir une trêve, qu'il n'y ait plus de manifestation. Et à ce moment-là, justement, une manifestation célèbre, l'hostie de grosse manif ou quelque chose comme ça, avait été hébergée.
C'est celle du 22 mars?
Non, ça, c'est pas le 22 mars, on est un petit peu plus loin en avril.
Au mois d'avril. Ouais.
Et le gouvernement utilise cette opportunité-là parce que la manif a été hébergée sur le site de la classe pour les expulser. Et finalement, après réflexion, les fédérations étudiantes ont décidé de quitter aussi en solidarité, mais c'est un exemple de moment quand même tendu où tu te poses la question, puis là, tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis le gouvernement, lui, le pari qu'il faisait, c'était, bon, on va éjecter le groupe, disons, plus militant, plus radical pour parler avec les autres. Mais nous, on savait très bien qu'on pouvait pas, en tout cas, je savais très bien qu'on pouvait pas en arriver à une entente sans la classe qui représentait une partie très importante des étudiants en grève. Fait que, bref, c'est le genre de tension aussi. Puis
la stratégie des gouvernements, quand ils ont des mouvements sociaux difficiles à gérer, c'est de les diviser. Là, je veux dire, Jean Charest n'a pas inventé ça. Là. C'est une stratégie bien éprouvée par l'histoire. Puis, tu sais, Léo, tu dis, il aurait pu avoir plus de collaboration, de causation. C'est clair, il aurait pu... Des fois, puis là, je veux pas avoir l'air trop du vieux bonhomme avec un kilomètre de recul, mais tu sais, il y avait aussi quelque chose dans ces conflictualités internes qui créait énormément de dynamisme, de débat d'idées, tu sais. Il y a certaines choses, sans doute, qu'on aurait mieux fait avec plus de coordination. Il y a peut-être aussi des éléments, tu sais, de la part de l'imprévisibilité de ce mouvement-là, son caractère indomptable pour le gouvernement, c'était pas pratique pour les gens qui essayaient de nous faire retourner à l'école. Tu sais, moi, j'ai toujours ben de la misère après coup à dire au fond, qu'est-ce qui se serait passé si on se serait mieux entendu. Puis là, je parle les organisations, tu sais, il y aurait certaines choses qui auraient été plus simples, les négociations certainement. Est-ce que le gouvernement lui-même était passablement
là, je m'excuse, mais
passablement enquiquiné par le fait que c'était dur à gérer cette patente-là, tu sais,
Martin parce
que
c'était plus rire, là. Martin, non, mais qu'est-ce qui se
passe? Juste le mot négociation, moi, en 2012, c'est ça me fait rire, là.
Est-ce qu'il y en a vraiment eu?
Non,
c'est ça la question.
Moi, je me souviens de l'entrée de Jean Charest dans la pièce, là. Qui fait le tour, qui salue tout le monde. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre aussi que l'opposition l'a chauffé pendant très, très, très longtemps pour qu'il vienne nous rencontrer, puis qu'il ne vient pas nous rencontrer, puis que là, ça s'étire, puis bon. Il décide de venir s'installer une demi-heure. Moi, je sais que ça dure à peu près une demi-heure. Entre une demi-heure et 40 minutes maximum. Il fait le tour de la pièce et s'assoit, puis il nous dit « Gabriel n'est pas là. » Là, c'est là qu'il réalise que Gabriel n'est pas assis à la table de négo. Puis là, on lui redit pour une énième fois que Gabriel n'est pas assis à la table de négo, etc., etc.
Juste pour le spécifier, parce qu'il y avait d'autres négociateurs qui étaient nommés, c'est ça?
Ben exact, c'est ça. Il y avait des négociateurs de la classe. Moi, je me souviens, c'est ça, il fait le tour, tu sais, puis il s'installe complètement évaché. Puis là, il est juste là pour faire du temps, en fait. Il regarde sa montre, puis il se dit, « Je vais faire ma demi-heure, puis je vais partir. » Parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, moi, je me souviens, là, j'étais prête, là. J'ai posé des questions. Tout ce qu'il me disait, c'était, « Ah, oh, Madame Courchaine va vous régler ça. Madame Courchaine va vous régler ça. Vous regarderez ça avec Michel. » J'étais comme. Je comprends là, qu'on va régler ça avec Michel, mais Michel n'est pas là pour régler des choses, fait que ça n'arrivera pas, tu sais. Donc, c'était vraiment long, c'était vraiment pénible. C'est vraiment une demi-heure, 40 minutes, il est reparti, on l'a plus jamais revu. Ça a été, franchement... Moi, là, c'est pour ça que je riais tout à l'heure, tu sais, les négociations, là, c'était une pièce de théâtre de haut en bas. Là.
C'était pas Michel une vraie Courchaine tentative.
Qui pogne les nerfs. Ah non, mais tu sais, Michel Courchaine qui pogne les nerfs après moi en me disant qu'il faut que je me présente aux élections. Mais ma blague à l'époque était, il a fallu qu'elle se retourne et qu'elle dise ça à Léo. T'sais, c'est Léo qui est allé avant. Mais c'était fou, là. Je veux dire, c'était pas une négociation. C'était vraiment là pour un peu nous intimider, même à la limite, nous faire sentir qu'on n'était pas assez à la hauteur. Puis vraiment, il nous sous-estimait à l'époque. Il avait décidé d'utiliser le petit guide 2005 comment gérer les manifestations étudiantes puis de l'appliquer à 2012 parce qu'ils ont tenu exactement les mêmes propos à peu près au même moment.
Léo, si tu pouvais adresser un mot à M. Charest, à Mme Beauchamp, à Mme Courchaine aujourd'hui.
Oh, OK.
Qu'est-ce que j'aimerais leur dire?
Ben, j'aimerais plus leur poser des questions, je pense. J'aimerais ça comprendre un peu qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête à l'époque, puis ce à quoi ils s'attendaient. Puis aujourd'hui, un peu comme nous qui analysons ça avec le recul, comment est-ce qu'ils voient ça? Parce que d'un côté, évidemment, je déplore totalement la façon qu'ils ont géré ça, mais finalement, ça a créé un des plus grands mouvements sociaux au Québec. Ça a politisé, mobilisé toute une génération. Donc, ça a eu, je pense, l'effet complètement inverse de ce qu'ils voulaient faire au départ. Puis, évidemment, il y a des gens qui ont été blessés là-dedans et tout ça, et ça, c'est extrêmement grave. Mais il y a eu aussi, malgré tout, beaucoup de positifs dans ce mouvement-là. Donc, j'aimerais ça un peu savoir, eux, comment ils voient ça. Puis, finalement, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils s'étaient trompés, là, vraiment, de A à Z en sous-estimant dès le départ, tu sais.
Juste pour le bien du balado, puis pour les auditeurs, on a évidemment invité, on a essayé d'inviter aussi les joueurs libéraux de l'époque.
Ils ont tous refusé pour le bien.
Soit des refus, soit on a été ignorés, soit on a eu des refus. Est-ce qu'on peut s'en étonner? Je vais vous laisser.
Je pense que Léo pose une question qui est qui moi aussi me tracasse beaucoup, puis j'aimerais bien avoir cette réponse-là, parce que moi j'ai entendu peu M. Charest en reparler mm-hmm. depuis les événements, Mme Beauchamp encore moins, c'est parce qu'il y a quand même eu une tentative de casser ce mouvement-là, qui a été un échec, je veux dire, lamentable en fait, ça a redémarré le mouvement. Pour un politicien d'expérience aussi aguerri que Jean Charest, je ne sais pas comment il a pris ça d'être battu politiquement par, au fond, une bande de jeunes qui n'avaient jamais fait ça.
Toi, aujourd'hui, Gabriel, t'es député.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, ça te permet de voir ça sous un autre angle. Est-ce que tu comprends quand même mieux qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête?
Je pense pas, non, que le fait de m'être maintenant impliqué en politique parlementaire, ça a vraiment changé ma perception des choses. Moi, j'ai l'impression que ça a été... Je veux dire, c'était pas de l'astrophysique. Tu sais, je veux dire, ils ont vu le mouvement. Au début, ils l'ont ignoré. Là, ils ont vu que ça s'en allait pas. Parce qu'au début, tu sais, je veux dire, il y avait pas de mouvement, il y avait rien qui se passait, c'était une minorité. Là, maintenant, c'était la crise sociale totale et absolue. Le Québec est à feu et à sang. La loi et l'ordre, il faut casser ça tout de suite. Et là, c'est la police. Et là, tu sais... Quelles ont été les directives? On le saura peut-être un jour quand il y aura des documents qui sortiront. Mais je pense que c'est assez simple, la stratégie qu'ils ont eue, au fond. Puis ça a été un échec. Le fait d'être aujourd'hui assis au Salon Bleu, ça m'a pas donné d'illumination.
Est-ce que vous pensez que les jeunes... Et les étudiants aujourd'hui seraient toujours capables d'une telle mobilisation?
Ben, ils l'ont fait au printemps dernier sur la question climatique. Je veux dire, moi, je pense pas que ce mouvement-là sur les changements climatiques aurait l'ampleur qu'il a aujourd'hui si 2012 n'avait pas existé. Puis je sors pas ça de mon chapeau. Je suis allé dans ces manifestations-là, puis les gens me le disaient. Ça faisait la file des manifs sur le climat pour me dire... On fait ça parce qu'il y a eu 2012. 2012 ouais. nous inspire. Donc, moi, je pense que là, c'est un exemple très clair de l'héritage de 2012.
Oui, mais je suis même allé donner des discours, en fait, dans certaines manifestations d'élèves au secondaire qui m'ont invité parce que 2012. Hein. Donc, je suis allé leur faire un discours avant qu'ils partent par une manif. T'sais, ils étaient vraiment inspirés, en fait, par 2012. Ils l'ont clairement dit. Donc, sur l'environnement, c'est sûr que t'sais, les causes changent. Les groupes changent aussi. J'ai l'impression que les plus jeunes, en fait, sont moins gênés que ce qu'ils étaient en 2012. En 2012, on avait quand même certains mouvements d'élèves au secondaire qui voulaient aller manifester, mais c'était plus comme compliqué. J'ai l'impression qu'au niveau de l'environnement, des directions ont été un peu plus compréhensives à certains égards, ce qui a permis quand même certaines mobilisations. En 2012, c'était beaucoup trop divisé, en fait, à l'époque pour que permettre un mouvement aussi large. Mais je pense que c'est les conséquences de ça là, qui ont démontré que le mouvement est capable de se faire. Moi, franchement, j'étais impressionnée par la manifestation. Je suis allée avec mon fils pour sa première manifestation, donc dans les rues de Montréal, Et c'était franchement impressionnant.
Avec l'expérience, avec ce que tu le recul que tu as maintenant, est-ce qu'il y aurait certaines choses que tu ferais différemment?
On peut toujours dire oui, mais je dirais non. De façon globale, non. En fait, à certains moments, je pense que j'en ai parlé. Des fois, on avait beaucoup de pression, puis des discussions qu'on pouvait avoir, des fois, entre nous, étaient un peu tendues. Je pense notamment avec Léo. Puis je me dis, mon Dieu, qu'on s'est tiré les cheveux des fois pour rien, puis qu'on aurait pu prendre ça beaucoup plus calme. Mais on avait tellement d'enjeux, puis tellement de pression de part et d'autre au niveau de nos membres. Mais bon... ceci dit, on s'est jamais vraiment chicané. C'est juste que parfois il y avait des débats où je trouvais que on allait comme trop loin pour rien. On aurait pu comme prendre une petite pause puis dire regarde, on va se parler dans 5 minutes. Mais à part de ça, non. Je pense que de façon générale, il y a plein de choses qu'on avait préparées qui ont été dans toutes les directions qu'on a rattrapées. On a essayé de négocier avec le gouvernement qui ne rien savoir au départ. On a même fait des négociations dont personne n'a jamais entendu parler, qui ont été secrètes, juste Léo et moi, puis notre gang à nous, puis ça n'a rien donné. Tu sais, je veux dire, il n'y avait aucune marge de manœuvre de toute façon. Fait que non, j'aurais rien changé parce que tout ce qu'on a fait, c'était toujours en réaction par rapport à ce qu'on recevait. On a fait du mieux qu'on a pu, mais c'est ça, si j'avais à changer quelque chose, c'est peut-être comme justement, tu sais, des relations interpersonnelles où on se dit, hey, franchement, on s'est tiré les cheveux pas mal pour rien cette fois-là.
Avec le recul, ouais. Gabriel, Tu as eu 8 ans maintenant pour y penser. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête que tu ferais différemment aujourd'hui si c'était à refaire?
Je pense que sur la fameuse question de la violence, la fameuse question de la gestion des manifestations, on aurait pu puis on aurait dû se préparer mieux à répondre à ces questions-là puis avoir ces débats-là dans les assemblées avant que ça se mette à dégénérer. Parce qu'à partir du moment où les affrontements étaient si forts et si polarisés et si polarisants, c'était rendu difficile de parler de ces choses-là à tête reposée. Les gens se faisaient poivrer, les gens se faisaient tabasser chaque jour. Et là, on leur disait « Ah, là, il faut avoir un débat sur quelle est notre position. » Puis là, les gens disaient « Ben, de quoi tu parles? » Je veux dire, on se fait ramasser. Donc, c'est sûr que cette question-là, on aurait pu puis on aurait dû l'aborder de front plus tôt.
Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment?
Oui, assurément qu'il y a beaucoup de choses que je ferais différemment en 2012. Je ne sais pas si ce serait bien, par exemple, parce que le fait que justement, moi à ce moment-là, je venais d'avoir 20 ans, ce soit aucune expérience, tout ça, tu sais, cette jeunesse-là, puis improvisation, je pense qu'il y avait une force incroyable là-dedans. Mais une des choses que je ferais différemment, puis on en a parlé un peu là, dans la discussion avec Gabriel et Martine, mais je pense que j'aurais essayé quand même de travailler une plus grande collaboration. Comme je dis, ça n'a pas trop paru publiquement, mais derrière les portes closes, il y avait quand même beaucoup de tensions, du maraudage entre les associations, des égos, une compétition. Puis je pense que tout ça était bon à certains égards, mais ça drainait beaucoup d'énergie. Puis je pense que ça aurait pu être une expérience humaine un petit peu plus facile, peut-être, si on avait été plus moins dur entre nous-mêmes, tu sais, entre étudiants puis entre représentants étudiants. Fait que ça, c'est quelque chose que je ferais différemment. Sinon, une autre chose que je ferais peut-être différemment, c'est qu'à ce moment-là, comme je disais, tout l'épisode aussi de violence puis de condamnation de la violence, c'était comme devenu un débat super important. Puis moi, dans mon rôle justement de plus conciliateur, puis mon objectif ultime, c'est d'en arriver à des négociations avec le gouvernement. Je pense que des fois, autant peut-être la classe, eux, refusait de condamner la violence, puis ça, c'était pas bien, mais peut-être moi et l'organisation avec qui je travaillais, des fois, on dénonçait pas assez, peut-être, quand il y avait des comportements policiers abusifs, parce qu'on voulait pas rentrer dans le piège du gouvernement qui était à dire, regardez, les étudiants, ils cautionnent la violence et tout ça, parce que je le voyais sur le coup, mais surtout avec le recul, quand on regarde les images, j'ai quand même eu, je pense, des dérapages de la part de l'État, de la part de la police, qui auraient dû peut-être être dénoncés davantage à ce moment-là. Fait, ça, c'est deux petits éléments que j'aurais fait différemment, mais sinon, je pense que si j'avais je pouvais leur faire puis changer des choses, je pense que je prendrais pas cette option-là, parce que je me dis, regarde, moi, je trouve que ça s'est bien passé, puis ça a été une belle victoire, puis comme je disais, cette improvisation, ce manque d'expérience, je pense que ça nous a servi, puis je pense que les gens ont reconnu puis apprécié cette forme d'honnêteté, naïveté. En tout cas, moi, j'étais pas de l'autre côté de la télé, mais c'est ce que beaucoup de gens nous ont dit, qu'ils voyaient quand même une authenticité, puis on n'était pas là, on parlait quand même avec nos tripes puis tout ça, puis il y avait une beauté là-dedans que les gens reconnaissaient pas dans les politiciens d'expérience de l'autre bord.
Si vous aviez un message pour les jeunes, puis là, j'aimerais vous entendre les trois à tour de rôle. Message pour les jeunes en terminant.
Je peux commencer. Au risque, c'est ça évidemment d'être un peu cliché, mais ce serait mobilisez-vous, engagez-vous évidemment. Moi, dans mon cas, puis je pense pour toutes les gens qui étaient là, ça a été un événement tellement marquant. Tu sais, il y a de ces dates un peu, là, moments dans l'histoire qui marquent une génération, puis ça, c'en est un. Et ça me suit encore aujourd'hui, ça apprend des valeurs, c'est ça, la solidarité, l'effort de groupe. Puis je me rappelle quand même, on disait quand même qu'aujourd'hui, avec le recul, des politiciens d'expérience qui se sont fait damer le pion par quelques jeunes, mais au départ, en tout cas, j'avais l'impression que c'était une montagne, puis le gouvernement bougeait tellement pas, puis de réaliser finalement que, hey, on est capable de ça donne tout son sens aussi à la vie démocratique, tout ça. Puis je pense que pour avoir une société qui fonctionne, qui a de la cohésion, il faut que les gens bougent, et il faut parfois qu'ils dérangent. Parfois, il faut justement subir quelques chroniques ou étiquettes acerbes, mais si on dérange pas personne, mais c'est peut-être qu'on fait rien, tu sais.
Mobilisez-vous, c'est ça qu'il faut se rappeler. Engagez-vous, dérangez. Gabriel?
2012, c'est pas seulement une expérience de mobilisation, c'est une expérience de victoire. Et moi, c'est ça, si j'avais à envoyer un message, c'est que non seulement c'est possible de se mobiliser, non seulement c'est souhaitable de le faire, puis de déranger, Léo l'a bien dit, mais on peut gagner aussi. On fait pas juste ça pour résister, on fait pas juste ça pour par principe.
on est capable de gagner. Puis 2012, pour moi, c'est le grand apprentissage que j'en ai tiré, puis que je pense que beaucoup de gens de notre génération en ont tiré, c'est que c'est possible la victoire. Même contre les gouvernements les plus, et là, celui-là, il n'était pas pire, corrompus, cyniques, violents, et même contre des adversaires qui nous apparaissent au départ si puissants, on est capable de gagner. Et ça, c'est une leçon, puis c'est un enseignement d'une valeur inestimable, la possibilité de la victoire pour les mouvements sociaux, pour les mouvements citoyens.
Martine, message aux jeunes.
Moi, je dirais, en fait, vous allez être sous-estimés au départ. On va toujours vous sous-estimer parce que vous êtes jeune et vous manquez d'expérience, mais c'est justement, je pense, un des meilleurs atouts que les jeunes peuvent avoir que d'être sous-estimés. Je trouve que nous, ça nous a beaucoup servi à plusieurs égards. Ça fait que souvent, on a bousculé les habitudes ou les choses qu'on attendait de nous, justement, parce que cette expérience-là là, de la vie à l'Assemblée nationale, on la connaissait pas. Et ça nous a permis un peu de sortir du cadre. Donc, tu sais, soyez créatifs également lorsque vous faites ce genre de mobilisation-là. Ayez des objectifs clairs. Moi, c'est ça que je rajouterais aussi. T'sais, vous allez être sous-estimé, mais ayez des objectifs clairs. Sachez ce pourquoi vous vous mobilisez, parce que c'est comme ça que vous allez être capable d'identifier, un, que vous avez gagné, et deux, d'être capable aussi de solliciter les gens pour qu'ils puissent sortir dans la rue et qu'ils sachent également pourquoi ils manifestent. Parce que autrement, c'est très difficile de mobiliser pendant autant de temps un grand groupe.
Êtes-vous prêts à repartir ensemble sur un nouveau...
Peut-être un jour?
On ne sait pas, on ne peut pas se dire non.
Bon, ben merci beaucoup d'avoir été présent. Ça a été vraiment un plaisir.
Ça a été un grand plaisir. Merci de l'invitation.
Oui, merci de l'invitation.
Ouais, merci.
Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème. La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic.
La nuit du 6 juillet 2013, un train transportant 72 citernes remplies de pétrole brut déraille près du centre-ville. Comment Colette Roy-Laroche et Pauline Marois, ces deux femmes, toutes les deux issues du service public, étaient aux commandes à ce moment-là, ont collaboré pour renforcer le pouvoir des gens et rebâtir la communauté.
Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard-Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.